vous parliez un petit peu de Constantin et Théodose, juste pour conclure ce...
Est-ce que ça conclut
bon, ce... successeur, est-ce qu'il en parle, s'il parle des consignes?
C'est déjà la séance.
Alors, je ne pense pas que le père Sandrez abordera spécifiquement ça. Quelle était la question dans la question?
C'est simplement, vous parlez du christianisme des trois premiers siècles, Constantin et Théodose sont... Ils sont forcément à la conclusion de cette période-là, puisque...
C'est logique. D'ailleurs, sur deux plans, j'ai insisté sur le fait d'aller jusque-là. Mais je pensais que ça ferait la prochaine. D'une part, je vous ai dit que la présentation de l'Église, au cours des trois premiers siècles, est une Église synodale. Donc une réunion, à travers les conférences épiscopales, des églises locales. Alors, entre Constantin et Théodose, on voit le passage donc de l'église synodale à une église impériale. Alors, ça se fait, c'est-à-dire ce qui est la dernière étape à voir. J'ai dit aussi que le christianisme, théologiquement et pratiquement, était dans une démarche d'intégration au monde séculier, à l'Empire romain, à la société de l'Empire. Je pourrais dire là aussi un mot sur les martyrs, ce qui a manifestement beaucoup frappé donc les non-chrétiens, les Grecs et les Romains, et qui a été un facteur de une dynamique de christianisation, c'est que contrairement aux martyrs juifs ou autres martyrs nationalistes persécutés donc de l'Empire romain, il y en avait d'autres, jamais les martyrs chrétiens n'ont remis en cause le régime politique et le régime social. Il mourait en priant donc, pour l'empereur et pour l'empire. Donc il y avait une démarche d'intégration consciente des deux côtés qui a facilité évidemment le ralliement des chrétiens sous Constantin et l'intérêt de Constantin pour le christianisme. Mais avec Constantin, il arrive au pouvoir en 311. Et il meurt en 336. Donc là, c'est l'intégration, je vais développer un peu, l'intégration du christianisme à l'Empire. Mais sous Théodose, en 380, c'est-à-dire à l'extrême fin du 4e siècle, on passe à la notion de religion impériale. L'édit de Théodose dit qu'il y a une seule religion dans l'Empire, la religion chrétienne est dans sa formule nicéenne, celle du concile de Nicée. Donc c'est une fermeture en quelque sorte. C'est la fin donc de l'époque de pluralisme et de tolérance. Parce que l'édit de Milan que Constantin et Licinius avaient pris en 313 est un édit de tolérance, qui est d'ailleurs aussi extrêmement moderne, qui reprend la requête des chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui ont inventé la notion de liberté religieuse au sens moderne du terme, c'est-à-dire définie comme une liberté de conscience et une liberté d'expression. Sous l'Empire romain, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'était un laisser-faire collectif. Chaque peuple, chaque communauté, c'était très, très diversifié dans l'Empire romain, chaque communauté ethnique peut honorer les dieux de ses ancêtres en pratiquant les cultes de ses ancêtres. Donc c'était le laisser-faire. Et c'était conçu donc comme une liberté publique collective, dont bénéficient aussi les juifs, quoique monothéistes. Donc ce sont les chrétiens qui ont posé cette nouvelle définition, qui sera celle de la déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs de la liberté religieuse. Et avant Constantin, l'empereur Galère, en 311, l'a entériné, et Constantin finalement l'a appliqué dans ce qu'on appelle, d'ailleurs assez improprement, l'édit de Milan. Avec cette belle définition, chacun peut honorer le Dieu qu'il veut de la façon qu'il veut. Donc c'est l'édit de Milan et le règlement de la situation par Constantin et Licinius en 313, c'est un édit de tolérance. Et on passe donc de l'époque de Constantin, du christianisme, religion dominante dans un système pluraliste, à l'émergence d'une religion d'État, une seule religion dans une seule forme, le christianisme nicéen, sous Théodose en 380. avec immédiatement l'impact, la répercussion, la fermeture de tous les temples païens et de toutes les écoles philosophiques. Alors, religion dominante sous Constantin, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle plus maintenant de conversion de Constantin. On parle de tournant constantinien, parce que d'abord, il a reçu le baptême sur son lit de mort, mais sans doute pour plusieurs raisons. Comme le disaient très bien certains auteurs de l'Antiquité, un souverain est forcé d'avoir la religion de son peuple. Donc, en tout cas, il a été baptisé sur son lit de mort, et surtout, il a été baptisé arien, c'est-à-dire hérétique, alors qu'il avait condamné et châtié les ariens, les hérétiques, après, en appliquant le concile de Nicée. Donc, oui, ça c'est complexe, ça, le poète. La position politique de Constantin et sa position religieuse sont assez complexes. Mais ce qu'on appelle le tournant constantinien, c'est que Constantin, après avoir hésité entre le Christ et le Dieu solaire pendant 4-5 ans, donc entre 315 et 320, pour faire simple, il a considéré que sa victoire sur Licinie sur 325 lui avait été donnée par le Christ. Et à partir de là, c'est vraiment un acte de foi, comme le reconnaissent les historiens agnostiques. Et à partir de là, il a concentré tous les moyens, toutes les infrastructures dont il disposait en tant que directeur des cultes. L'empereur est le Pontifex Maximus à Rome, hein, c'est le directeur des cultes. Il a concentré tous les moyens dont il disposait au bénéfice du christianisme. Une espèce d'exclusive de fait. Et pas de droit. En droit, donc, la religion d'empire, la religion d'État, c'est Théodose qui l'instituera en 380.
Avant de vous poser une question, je voudrais revenir sur vos propos. Vous avez évoqué les apocryphes du Nouveau Testament. Et vous avez dit que...
Ils ne sont pas dans le Nouveau Testament, ils sont en dehors. Qui développent le Nouveau Testament.
Oui. Et vous avez cité le fait que l'Ancien Testament, c'était la Bible hébraïque, mais il y a aussi les deutéronomiques, les apocryphes de l'Ancien Testament.
Oui, c'est pas des apocryphes de l'Ancien Testament, c'est une dénomination. C'est une dénomination protestante qui est maintenant abandonnée par les protestants eux-mêmes depuis 10 ans, qui parlent de deutérocanonique, c'est-à-dire de textes normatifs secondaires. C'est ça que ça veut dire, hein, deutérocanonique.
Et à cet égard, je voulais avoir votre sentiment sur. Inspiration ou pas,
en fait, ce que je n'ai pas dit,
que la Bible hébraïque n'a pas inclus.
Ce que n'a pas dit mon exposé, c'est que les chrétiens ont utilisé la Bible hébraïque dans sa version grecque, dans sa version hellénophone, la Bible des Septante. Et ce que on appelle dans les Bibles chrétiennes maintenant les deutérocanoniques, alors il y a les livres historiques comme les livres des Maccabées, les livres de sagesse.
Judith,
Tobie, Esther, l'Esther grecque, etc., le livre de la sagesse, le Siracide, et tout ça. Considérés comme normatifs, mais secondaires, secondaires par les Bibles chrétiennes. Mais donc, ils étaient déjà considérés comme des textes révélés par les chrétiens de langue grecque, par les juifs de langue grecque, à Alexandrie par exemple, à Antioche et ailleurs. Donc en fait, là ce qu'il faut voir, c'est le choix. Là encore, on retrouve le rôle de Paul comme fondateur. Paul est le premier auteur chrétien, le premier théologien chrétien. C'est un juif de la diaspora, un juif hellénisé et hellénophone. Il fait le choix, puisqu'il va écrire, déjà en montrant que le Christ est venu accomplir les prophètes, ligne rouge théologique que j'ai fait tout à l'heure, il fait le choix d'utiliser la Bible en grec et pas la Bible en hébreu. C'est un choix décisif. Et à partir de là, donc, il prend la Bible en grec telle qu'elle est. Pour répondre à votre question, il n'y a pas une Bible hébraïque en hébreu qui serait orthodoxe et une Bible en grec qui serait hérétique. On l'a cru pendant un temps. Et qu'est-ce qui a montré le contraire? C'est la publication scientifique et honnête des manuscrits de la Mer Morte, c'est-à-dire la bibliothèque de Qumran, qui a montré donc, même dans une communauté religieuse juive très, très intégriste, très, très mystique aussi, enfin très, très religieuse, comme celle de Qumran, ils avaient plusieurs Bibles, qui étaient toutes mises sur le même plan, plusieurs textes bibliques, en hébreu, en araméen, ce qu'on appelle le Targum, en grec, mais même aussi la Bible en grec. Donc il n'y a pas une Bible hébraïque, il n'y avait pas, à l'époque de Jésus et de la rédaction du Nouveau Testament, une Bible hébraïque, orthodoxe, unique. Ça, c'est venu avec la construction rabbinique, avec le judaïsme rabbinique, que maintenant, j'aurais pu le dire aussi, avant on disait le judaïsme rabbinique s'est mis en place en 70 et tout de suite anti-chrétien après la chute du temple, etc. Et maintenant, les meilleurs spécialistes, comme Simon Mimouni en France ou Poyarin aux étrangers, aux États-Unis, mettent la constitution du judaïsme rabbinique avec une Bible fermée, une Bible braille fermée, cette fois, vers le 5e, 6e siècle. Donc la chronologie change différemment. Quant à la Bible hébraïque orthodoxe aujourd'hui, ce qu'on appelle la tradition massorétique, on a pu vous en parler, donc, je pense, la semaine passée, elle résulte d'un travail de canonisation qui est parallèle, mais légèrement postérieur, au canon chrétien. La canonisation des écrits chrétiens, je vous le disais, date des années 180, c'est à ce moment-là que commence le travail sur la tradition massorétique de la Bible hébraïque. Donc maintenant, c'est vrai, la Bible hébraïque est tout aussi fermée que la Bible des chrétiens, mais ce n'est pas ce qui se passe à l'époque de la christianisation. Oui, vous avez l'air réticent.
Merci. Non, je réfléchis.
À l'époque,
il semblerait que c'est à Jamnia en 90 que le canon.
Non, ça c'est un mythe complet, même les historiens juifs le disent, là, c'est un mythe total.
Alors je suis resté sur ça.
Il y a le mythe de Yavné, par lequel les rabbins du 6e, 7e siècle ont voulu s'inscrire dans la tradition pharisienne antérieure à 70, c'est qu'à la fin du siège de Jérusalem, quand tout allait flamber, y compris le temple, un rabbin avait pu sortir clandestinement dans un cercueil, je crois, de Jérusalem, et donc aller sur la côte à Yavné, où, ayant survécu avec un petit groupe d'intellectuels, rabbi, rabbin, c'est une appellation du temps de Jésus d'ailleurs, hein. Donc avec un petit groupe d'intellectuels, ils auront ensuite obtenu de l'empereur Vespasien, le vainqueur, le droit de fonder une académie qui était une sorte donc d'école de théologie déguisée. Mais ça, même à l'Université hébraïque de Jérusalem, on dira que c'est un mythe rabbinique.
J'aurais juste une question pour revenir sur l'église synodale que vous décriviez. J'ai été assez surpris que vous disiez qu'elle s'arrête, puisque ce que j'ai pu apprendre en histoire du droit, c'est que l'église synodale, enfin le synode et le fonctionnement du Moyen-Âge, et qu'il faut attendre Gratien et son décret pour qu'on ait un peu une fin de la récréation et qu'on n'ait pas cette solution qui s'éparpille un peu partout.
Alors, comme historienne, je dirais que chaque fois que la grande... Enfin, j'empiète encore sur les conciles. Hein. J'ai vu un grand concile réuni au 4e, 5e siècle, vraiment tout près de Constantinople et sous la direction de l'empereur. Dans les fêtes, c'est plus un fonctionnement synodal et collégial entre les évêques.
C'est ça, le fonctionnement synodal reste complet.
Il y a déjà un principe de centralité, une opération de centralisation.
C'est le passage du synode au concile, en fait.
Les deux mots, c'est une question de langue. Hein. Oui. Au 3e siècle, c'est exactement la même chose. Une conférence épiscopale s'appelle un synode en grec et un concile en latin. Donc à Carthage, c'est un concile. À Antioche ou à Alexandrie, c'est un synode. Ou à Éphèse, c'est un synode. C'est une question de langue. Mais oui, moi j'aurais tendance... Enfin, mais c'est un point de vue d'historienne, et pas de théologienne ou d'ecclésiologue. J'aurais tendance à dire qu'à partir des Nicées, la dimension impériale prise par les conciles va dans le sens de la centralité, qu'on ne peut plus parler à ce moment-là d'église synodale, de présence synodale de l'église, au sens où tous les évêques sont collégialement sur le même plan.
Du coup, oui, alors, question subsidiaire par rapport à cela, pour finir. Vous évoquiez la question du droit, mais l'essentiel des sujets que vous avez abordés sont des enjeux doctrinaux. au moment de ce synode-là, est-ce qu'il y a des, aussi des enjeux, on va dire, beaucoup plus juridiques qui sont traités à ce moment-là, ou est-ce que c'est plus tardivement qu'on va avoir, effectivement, au travers des phénomènes après de constitution décrétale, les enjeux de constitution d'un corpus juridique séculier par, ah non, par, le, par l'Église?
Non, on n'en est pas là.
On n'en est pas encore là.
Les synodes ou conciles de Carthage sont des réactions des situations de crise, de crise vécue. Alors, il n'y a pas des aspects doctrinaux. Il y a la question, il y a une question ecclésiologique importante, j'en ai parlé trop vite, qui est justement la conception au sein de l'Église. Une Église du petit reste, en époque de persécution, parce que une Église de petit reste, et une Église des purs, comme Kataroi, hein, les Cathares, comme on dit en grec, c'est-à-dire que ceux qui ont résisté envers et contre tout, ou au contraire, réintégrer tous ceux qui... ceux qu'on appelle les lapsi, L-A-P-S-I, ceux qui ont failli plus ou moins en brûlant quelques grains d'encens, en se faisant faire des faux certificats de sacrifice, ou des choses comme ça. Donc là, il y a eu un débat vraiment ecclésiologique, très dur, qui a duré au moins 50 ou 60 ans, avec des dissidences d'intégristes, et c'est le réseau épiscopal majoritaire donc qui a imposé, enfin qui a la réintégration, sous condition, avec pénitence, tout cela, mais la réintégration. Donc il y a quand même eu des questions, ce que j'appelais des questions disciplinaires. Autre question disciplinaire aussi, liée à la réflexion qui se constitue sur les ministères, c'est-à-dire la détention d'autorité et de responsabilité dans l'Église, les cas d'insubordination ou d'indépendance de diacres, de presbytres, enfin de prêtres ou de laïcs vis-à-vis de leur évêque. Donc il y a des problèmes pratiques, mais si vous voulez des solutions juridiques, par exemple le principe qu'il faut trois ordonnants pour ordonner un évêque, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Ben, je ne sais pas si pour vous c'est dans du droit, ou... mais c'est quand même des mesures comme ça, c'est quand même très rare. C'est vraiment des réactions à des crises douloureuses, à des crises qui mettent l'Église en péril. Donc c'est des solutions de crise hein, qui sont trouvées lors des... Oui, je trouve pas, on peut dire ça, lors des synodes du 3e et du 4e siècle. Il y avait une question là, avant la vôtre, monsieur.
Oui, vous avez parlé des ex-fondateurs. À partir de quel moment, quel est le débat en termes de texte, où il y a un rassemblement de tous ces textes, une compilation, un suivi, un stockage
Le canon, 180.
Et c'est transmis de quelle façon?
Ben alors, les collections du canon, on les connaît... Enfin, techniquement, ça va paraître un peu difficile. On étudie la diffusion du canon et la façon dont il se diffuse à travers les écrits des pères de l'Église et à travers les lettres d'évêques que moi j'ai personnellement étudiées. C'est-à-dire l'usage qui en est fait, quoi. On n'a pas, de toute façon, les grands manuscrits datent du 4e siècle. Hein, donc c'est bien, et puis ils sont toujours partiels. Donc c'est une technique de l'histoire antique, hein, l'histoire de la culture dans l'Antiquité. C'est les citations qui sont faites dans les échanges de correspondance et les échanges entre intellectuels qui nous permettent d'apprécier l'importance d'un écrit, l'importance d'une pensée et comment elle circule. C'est pareil pour le canon ou c'est pareil pour les pères de l'Église. Par exemple, on sait que l'essentiel du Nouveau Testament, de ce qui se fait du Nouveau Testament, donc on sait par l'histoire des historiens de l'Église que les grandes conférences sur la sélection des écrits du Nouveau Testament ont lieu à vers 180 sous l'évêque Zéphirin à Rome. Mais on sait que dans une lettre de Polycarpe, l'évêque Polycarpe de Smyrne, qui est mort sans doute en 144, on sait que sa bibliothèque, il a déjà presque tout ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il a la plupart des épîtres de Paul, la plupart des épîtres apostoliques, il a déjà les quatre évangiles. Donc vous voyez que il y a un processus empirique qui se constitue avant que... Mais inversement, il y a un chrétien de Syrie Tatien, qui écrit un évangile quadruple, en grec ça veut dire ça, l'évangile quadruple. On a l'impression que les quatre évangiles, c'est l'évangile quadruple, c'est pas les quatre évangiles qui sont devenus les évangiles canoniques. Donc c'est un processus en pyrrhus dont on saisit des bribes. Et par les méthodes habituelles de l'histoire des textes.
Oui, j'avais une question double.
Pas quadruple.
Non, pas quadruple. Vous avez évoqué rapidement la famille de Jésus, notamment Jacques. Il y a toujours une question qui m'a posé.
Pardon, un peu plus fort, s'il vous plaît.
Jacques.
Oui.
La question est de savoir pourquoi, en fait, la proto-église de Jérusalem, qui était restée sur place, n'a pas tenu en tant qu'elle.
Ah ben si, elle a tenu jusqu'en 135 quand même. Hein. Elle n'a plus tenu. Donc c'est une communauté, vous ne pouvez pas parler de chrétien puisqu'il ne parlait pas latin ni grec, donc une communauté de disciples de Jésus dirigée par des membres de sa famille, ça on le saisit très bien, jusqu'en 135. Il faut voir que, on voit déjà dans les évangiles, encore un élément d'historicité sans doute, que les rapports, Jésus a une famille, d'ailleurs les autres historiens l'ont dit, mais que les rapports de Jésus avec sa famille peuvent être tendus. Et donc, à la mort de Jésus, manifestement, il y a eu deux sources d'autorité. Ça, l'histoire est consensuelle, et l'exégèse aussi là-dessus. Et ça correspondait aux structures du monde antique. L'autorité du groupe des disciples choisis, du groupe des douze, avec Pierre à sa tête. Et c'est cette église qui a été missionnaire, c'est cette communauté, l'église est fausse, cette communauté qui a été missionnaire après la mort d'Étienne. Et puis une communauté, une autorité familiale, ce qui fait que depuis 30 jusqu'en 135, donc, les disciples de Jésus à Jérusalem étaient dirigés par un membre de la famille de Jésus. Puisqu'on parlait des romans, il y a un roman qu'on rend bien compte, c'est celui de François Chandière d'Agor, par en même temps celui de Carrère, donc sur Jude, frère de Jésus. Et on comprend à ce moment-là que les évangiles et les actes des apôtres qui émanent du milieu des douze, qui émanent de la mission portée par les douze autour de Pierre, et occulter le rôle de Jacques. Il n'y a pas d'autres termes. Et c'est quand on est revenu depuis une trentaine d'années à l'histoire des origines du christianisme, aussi en prenant en compte le regard juif, qu'on s'est rendu compte donc que on pouvait dire beaucoup de choses sur Jacques, frère de Jésus, qui était très apprécié des pharisiens, qui a été, là c'est l'historien juif Joseph qui le raconte, qui a été un assidu du rituel du temple jusqu'au bout, qui a été mis à mort par un lynchage en profitant d'une vacance du gouverneur romain, et les pharisiens ont accusé son meurtrier pour le gouverneur romain, donc il était resté proche du milieu pharisien. Jacques est mort en 62. Jacques, frère de Jésus, a été mis à mort en 62. Donc, tout à l'heure, le recteur rappelait donc qu'un des apports de Vatican II, c'est justement de placer l'analyse de la foi chrétienne et de la foi catholique dans le pluralisme religieux, à tous les niveaux. Et c'est cette orientation nouvelle donc, qui a aussi libéré des champs de recherche que beaucoup d'encycliques pontificales du XXe siècle ont contribué à libérer. Donc, eh bien oui, il n'y a pas une succession. D'abord, quelquefois, les étudiants, j'avais cette impression-là, qui pensaient que Jésus était monté au ciel, s'ils étaient croyants, en laissant un testament bien organisé, avec Pierre à la tête et tout ça, donc bien mis en place jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas du tout ça. On est d'abord dans un pluralisme de situations, dans une configuration du christianisme de petits groupes, et même à la mort de Jésus, en Palestine. Donc il y a deux groupes. C'est pas seulement une opposition culturelle, c'est qui se réfère à deux sources d'autorité et à deux modes de transmission différents. Le groupe autour de Jacques et le groupe autour de Pierre et des douze qui va essaimer. Et Paul le reconnaît dans l'épître aux Galates, où il dit « Je suis monté à Jérusalem voir les trois colonnes de l'Église, Pierre, qu'il appelle Képhas, Jacques et Jean. »
Et après 135, c'est fini
Alors en 135, donc, c'est la fin de la guerre insurrection juive. Et l'empereur Adrien donc décide de transformer, si vous êtes allé à Jérusalem, c'est ce que vous voyez actuellement, hein, de transformer Jérusalem en belle ville romaine. Ça, il y a mis de l'argent, colonnades, etc. Ça a protégé, ce qui était intéressant, le tombeau du site du Golgotha et du Saint-Sépulcre. Ça, c'est vrai que ça l'a protégé. Ça fait une espèce de chape qui a couvert donc la stratigraphie antérieure. Mais en même temps, donc, comme c'était la fin d'une insurrection, il a interdit aux Juifs de séjourner, de résider à Jérusalem. Donc à ce moment-là, on le voit très bien dans la plus ancienne histoire de l'Église, qui est celle d'Hégésippe, un Juif converti au christianisme de la fin du IIe siècle. Jusque-là, donc, tous les chefs des fidèles de Jésus, du Christ à Jérusalem, avaient des noms hébreux, puis ils étaient rattachés à la famille de Jésus, de petits cousins ou petits cousins. Et à partir de ce moment-là, donc c'est une église grecque avec de langue grecque et des évêques grecs. Oui ?
Une question parallèle, en fait, à cette différenciation entre le christianisme des origines prosélytes et celui.
Missionnaire. Prosélyte est un vilain mot aujourd'hui. Il y a un grand sujet de débat.
C'est une mode. Les mots, ça va là.
Vous nous direz ce qui fait débat quand même.
C'est aussi la relation au judaïsme, et notamment au rite juif, parce que de ce que j'en ai compris, Paul était celui justement qui voulait une rupture assez nette avec un certain nombre de rituels forts du judaïsme. Interdit alimentaire, circoncision, etc. Alors que certains groupes qui croyaient en la parole de Jésus considéraient qu'ils pouvaient l'être tout en restant juifs.
Alors il faut un petit peu réactualiser aussi ces données-là en fonction de.
Je suis là pour ça,
madame. En fonction de, des travaux faits en commun avec les années du judaïsme. D'abord, Paul n'a pas créé de rupture. Par exemple, sur le plan de la circoncision, je me renverrai à la thèse au livre de mon collègue Mimouni, juif lui-même, historien du judaïsme. La circoncision n'était pas appliquée par tous les juifs de la diaspora, loin de là, ni même par tous ceux de Jérusalem, parce que ça posait des problèmes sociaux, en particulier pour les épreuves athlétiques et la participation donc, à l'éducation athlétique. Donc, c'était déjà débattu entre les juifs, la question de la circoncision, l'obligation de la circoncision. Après, dans le judaïsme rabbinique, ça va devenir incontournable. Mais à l'époque de Jésus, toujours aussi cette question de projeter les réalités, les interdits du judaïsme rabbinique sur les premiers siècles. Donc, la circoncision était déjà en débat. Tous les juifs n'étaient pas circoncis, loin de là. Deuxièmement, pour les interdits alimentaires, ben, moi, c'est une thèse que je fais soutenir dans un mois, entre autres. Y avait tous les degrés. C'est comme maintenant. Vous aviez effectivement des juifs intégristes et d'autres qui l'étaient moins. Il y avait. Quelqu'un me parlait du livre de Judith, là, je ne sais plus tout à l'heure. C'est à certains temps, dans le livre de Judith, donc, appartenant à un milieu, un livre maintenant d'un milieu juif hellénisé. Ils arrivent à distinguer, puisque le principe de la société antique, c'était de manger ensemble. Quoi qu'on fasse, comme soldat, comme milieu de travail, politique, on mangeait ensemble. La convivialité, c'était la clé de tout. Après moi, une participation, le fondement de la participation. Eh bien, le livre de Judith, mais il n'y a pas que ce texte-là, vous montre comment on peut être convivial sans être commensal. C'est à manger ensemble, mais à des tables séparées. C'est par exemple ce que je vis, moi, quand je fais l'université hébraïque de Jérusalem. On est convivial, on est tous dans la même salle à manger, mais pas tous aux mêmes tables. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout des situations tranchées. Et la position de Paul sur la convivialité n'est pas du tout tranchée non plus. Hein. Vous ne mangerez pas dans un sanctuaire, mais vous pouvez manger de la viande sacrificielle chez vous. Il y a tous les degrés. Donc, ça revient donc à ce que je disais. Il y avait déjà des engagements plus ou moins poussés dans le judaïsme, mais plus ou moins poussés dans le christianisme, et comme dans toutes les religions d'ailleurs. Donc les mariages mixtes, ils sont quand même assez bien attestés. Il fallait aussi trouver des conditions de cohabitation. Donc c'est des situations diverses. D'autre part, l'autre aspect que montre la recherche actuelle, c'est que les chrétiens judaïsants, ça j'en ai dit un mot, étaient beaucoup plus nombreux qu'on le croyait. Avant, on parlait de judéo-chrétiens jusqu'à la fin du XXe siècle, en disant que c'était des résidus, justement, des premiers convertis, puis c'est quelque chose qui s'est éliminé progressivement. Et maintenant, donc, je l'ai dit, en travaillant sur l'exégèse, en travaillant sur les questions rituelles, et en travaillant donc sur la réaction des grands conciles du 5e siècle qui ont essayé d'évacuer toute trace de judaïsation, on ne parle plus de judéo-chrétien, mais on parle de chrétien judaïsant, ou de païen judaïsant aussi d'ailleurs. Les synagogues, c'est des foyers attractifs, on venait échanger, y discuter, écouter une lecture, écouter une homélie, une conférence, y discuter. Donc que les chrétiens judaïsants sont beaucoup plus nombreux, ont constitué durant tous ces 4 premiers siècles un vrai courant. Alors se pose ensuite la question du prosélytisme. Quand je disais que c'est pas un mot politiquement correct actuellement, puisqu'on... Ça paraît, pour les juifs, ça paraît être une justification de la Shoah que de parler de prosélytisme juif, mais il est certain donc que dans le passage du christianisme religion dominante à religion d'empire, que donc vous esquissiez la perspective tout à l'heure, freiner le prosélytisme juif a été une part importante de la législation impériale. Donc il y a aussi une thèse qui se défend que les églises et les synagogues ont fait du prosélytisme ou de la mission concurrente dans cette situation.